Bonjour à tous, vous êtes sur IDFM Radio 98 FM, il est 18h et c'est l'émission Entre chien et loup qui commence. Je suis Ishtar Mathieu Séchez, je suis percussionniste de formation et musicologue conférencière et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau programme musical. Nous allons voir aujourd'hui ensemble des tubes de la musique classique. Avant ça, pour rappel, on se retrouve les 1er et 4e mardis du mois, donc de 18h à 19h dans l'émission Entre chien et loup. Après plusieurs émissions consacrées à la thématique de la musique de film, donc thématique très large, nous aurions pu continuer sur ce sujet-là encore pendant plusieurs émissions, je souhaitais partager à partir d'aujourd'hui avec vous des émissions ayant comme thématique les fondamentaux de la musique. Et quoi de mieux que les tubes de la musique pour aborder cette question des fondamentaux. Les tubes de la musique, ce sont des morceaux connus de tous parce qu'ils ont été utilisés dans un film ou encore dans une publicité. Bref, ils sont connus de tous, mais sans forcément que l'on sache d'où ils viennent, de quelle époque ils datent et par quel compositeur ils ont été écrits. Mon but dans cette émission et dans les suivantes, ce sera donc de recontextualiser donc tous les morceaux que je vais vous présenter. Et pour commencer ces émissions sur les fondamentaux de la musique, Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach est un compositeur appartenant à l'époque baroque, donc qui est une période de 150 ans. Et oui, cette période a été très longue, elle a duré du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. C'est une période donc très longue qui a donc vu plusieurs générations de compositeurs. Donc plusieurs compositeurs sont au sein de cette période qu'on appelle période baroque, sachant que c'est un nom qui a été mis bien a posteriori, mais il va y avoir donc plusieurs générations différentes. Par exemple, nous avons Jean-Baptiste Lully qui a travaillé en France à la cour du Roi Soleil. On écoutera d'ailleurs un extrait d'une œuvre très célèbre de ce compositeur. Et il y a aussi donc notamment Jean-Sébastien Bach, mais ils avaient tous les deux une cinquantaine d'années de différence. Donc vous voyez bien plusieurs générations donc qui sont au sein de cette intitulée donc qu'est la musique baroque. Jean-Sébastien Bach est un compositeur qui est absolument fondamental dans l'histoire de la musique puisque on a été jusqu'à mettre l'année de sa mort, 1750, comme étant la fin de la période baroque. Bien sûr, dans l'absolu, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. J'ai l'habitude de dire que la période baroque ne s'est pas terminée le 31 décembre 1750. Aujourd'hui, donc, il est fondamental et on a donc mis cette date de 1750 comme la fin de la période, mais il faut savoir que après la période baroque, donc à la période classique et même jusqu'au début du 19e siècle, les compositeurs de cette période, et Jean-Sébastien Bach en a fait partie, eh bien toutes ces personnes donc et toute cette période ont été un peu oubliées et le compositeur a été remis au goût du jour grâce à Félix Mendelssohn, un compositeur du début du 19e siècle qui est mort à moins de 40 ans malheureusement, et c'est lui qui l'a remis au goût du jour lorsque en 1829 il a dirigé une des œuvres fondamentales de Jean-Sébastien Bach qui s'appelle La Passion selon Saint Matthieu, qu'on a totalement redécouverte, et dans à la suite de cette redécouverte de cette œuvre de Jean-Sébastien Bach, c'est toute la période baroque qui a été redécouverte par le public. Sur Jean-Sébastien Bach, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que si aujourd'hui il est extrêmement fondamental dans l'histoire de la musique, à l'époque, il était beaucoup moins connu que son compatriote, que son confrère et que son contemporain Telemann, qui était né sensiblement à la même période, ils avaient juste 2-3 années d'écart, eh bien Telemann, lui, a beaucoup voyagé en Europe à l'époque, donc il avait une grande renommée, alors que Jean-Sébastien Bach, lui, est resté en Allemagne, donc il était beaucoup moins célèbre. De ce compositeur, et pour ouvrir le programme du jour, je vous propose d'écouter la fameuse toccata et fugue en ré mineur. On va écouter un extrait, on va écouter le début de cette œuvre qui a été écrite pour orgue, donc qui est un clavier. Le piano, c'est aussi un clavier, mais il n'existait pas encore à l'époque de Jean-Sébastien Bach. À ce moment-là, il n'y avait que le clavecin et l'orgue et d'autres, quelques autres claviers, mais c'était les instruments principaux, donc pas de piano. Et il a écrit donc cette œuvre, Toccata et Fugue en Ré mineur, qui est une des œuvres que nous avons déjà entendues dans une émission précédente, puisque c'est l'œuvre qui ouvre Fantasia de Walt Disney, sortie en 1940. Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission Entre chiens et loups jusqu'à 19h. Je suis Ishtar Mathieu-Séchez, musicologue conférencière, et aujourd'hui on aborde des tubes de la musique classique. Et nous venons d'entendre donc à l'antenne la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach, une œuvre écrite pour orgue. Avançons un peu dans le temps et allons au début du 19e siècle pour retrouver Ludwig van Beethoven, compositeur allemand, comme Jean-Sébastien Bach, et qui lui a eu un rôle extrêmement important dans l'histoire de la musique, puisqu'il a fait passer la musique de ce qu'on appelait la période classique, à laquelle appartenait par exemple Mozart, dont on écoutera tout à l'heure un extrait d'œuvre, et la période romantique, donc la période suivante. Il a fait évoluer la musique à tel point que la musique a été littéralement transformée grâce à ce compositeur. Il a écrit notamment 9 symphonies. Je rappelle, une symphonie, c'est une œuvre pour orchestre symphonique. Alors là, c'est le cadre classique, où dans lequel donc on va retrouver les cordes, les vents et la percussion. Dans une symphonie, le cadre classique, c'est 4 mouvements, un rapide, un lent, un mouvement à 3 temps assez dansant, et enfin un 4e mouvement qu'on appelle le final, qui est lui aussi rapide. Parmi ces 9 symphonies, il y a la symphonie donc numéro 9, créée en 1824, dans laquelle on retrouve des chanteurs dans le final, et là, c'est là qu'on retrouve le fameux hymne à la joie. Et il y a aussi la fameuse cinquième symphonie, avec la fameuse cellule de 3 brèves, une longue, papapapam, qui se retrouve tout au long de la symphonie, et pas seulement, loin de là, dans le premier mouvement. Mais c'est un extrait donc du premier mouvement que l'on va écouter, avec cette cellule qui se retrouve déjà partout, à différents endroits, différents instruments dans l'orchestre, pour ce tout début qui est extrêmement énergique. Dans l'émission Entre chien et loup jusqu'à 19h sur IDFM Radio 98 FM, nous venons d'entendre un extrait du premier mouvement de la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven. Continuons notre voyage dans les tubes et à travers donc l'histoire de la musique, donc les pays, les époques, et nous allons donc aller en Italie, mais on reste au début du 19e siècle. Et on retrouve le compositeur Vincenzo Bellini et le genre de l'opéra. L'opéra, c'est en quelque sorte une pièce de théâtre en musique, puisque comme dans le théâtre, il y a des personnages, des décors, des costumes et puis une subdivision en actes et en scène. Donc exactement la même chose, si ce n'est qu'on a un orchestre supplémentaire et que les personnages qui sont sur scène chantent. Le genre de l'opéra est né au tout début du XVIIe siècle, et donc le tout début du XVIIe siècle, c'est le début de la période baroque. Et oui, nous changions d'esthétique musicale, c'était donc une nouvelle période qui commençait, et donc l'opéra est aussi toujours un genre qui existe aujourd'hui, 400 ans après. Le tube que l'on peut relever chez Vincenzo Bellini, c'est un air qui s'appelle Casta Diva. C'est un air de soprano, donc la voix aiguë de la femme, et c'est un air tiré d'un opéra qui s'appelle Norma. Et Casta Diva, c'est un air qui est une prière chantée par une prêtresse. On écoute tout de suite cette Casta Diva, et c'est la Callas qui chante cet air. FM, on vient d'entendre l'air Casta Diva tiré de l'opéra Norma, de l'opéra du compositeur italien du début du 19e siècle, Vincenzo Bellini. Nous restons dans le domaine de l'opéra, mais nous allons en France et nous avançons un petit peu dans le 19e siècle puisque nous allons aller en 1875 pour retrouver le compositeur Georges Bizet. 1875, c'est l'année de sa mort. Mais c'est aussi et surtout l'année de la création de son opéra ô combien célèbre, Carmen. Cet opéra, donc créé en 1875, se base sur l'œuvre littéraire de Prosper Mérimée du même nom, Carmen. Et dans cet opéra, duquel on pourrait tirer beaucoup de tubes, puisque beaucoup d'extraits sont devenus extrêmement célèbres, j'ai choisi pour aujourd'hui la fameuse Habanera chantée par le personnage de Carmen, qui est un rôle de mezzo-soprano. Donc, c'est une voix plus grave que celle qu'on a entendue il y a quelques instants avec Casta Diva, avec la voix de Maria Callas. La Habanera, c'est une danse qui est originaire de Cuba et plus particulièrement de la Havane, puisque le mot Habanera, donc, ça évoque la ville de la Havane. C'est une danse qui est rattachée là intimement à l'opéra Carmen, mais il faut savoir que c'est une danse qui existait avant et qui existe indépendamment de Carmen. C'est comme le French Cancan, par exemple, dès qu'on parle de Cancan, on pense à Jacques Offenbach et la fameuse musique qui est très entraînante, l'espèce de galop infernal où on se contextualise, par exemple, dans le Moulin Rouge. Mais il faut savoir que le Cancan, par exemple, c'est aussi une danse qui existe complètement à part de cette musique de Jacques Offenbach et qui existait même avant Jacques Offenbach. Mais c'est assez amusant de voir comment certains mots, certaines notions, et là en l'occurrence certaines danses, sont rattachées à une œuvre, à un compositeur, alors qu'en fait elles ont leur vie propre et complètement indépendamment. On va donc écouter cette Habanera tirée de Carmen et il y a un rythme bien précis de la Habanera que vous allez entendre là, mais si vous écoutez d'autres Habaneras, vous entendrez le même rythme, c'est le fameux rythme pam, 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 qui se répète tout du long. C'était la Habanera tirée de l'opéra Carmen de Georges Bizet que vous venez d'entendre à l'antenne d'IDFM dans l'émission Entre chiens et loups. Je suis Ishtar Mathieu-Séchez, musicologue conférencière, et aujourd'hui je suis ravie de vous partager plein de tubes de la musique classique et de les remettre en contexte. Nous restons en France, nous restons dans le domaine de l'opéra et nous allons retrouver le compositeur qui s'appelait Léo Delibes. Il est essentiellement connu pour un opéra et un ballet. Le ballet, c'est le ballet Sylvia, et l'opéra, c'est l'œuvre qui s'appelle L'Acmé. Et au sein de cet opéra L'Acmé, il y a un duo féminin. En l'occurrence, il y a une voix de soprano et une voix de mezzo-soprano, là ça va faire un mix des deux voix que nous avons entendues jusqu'à présent, qui s'appelle le duo des fleurs. Je vais enchaîner cette écoute du duo des fleurs tiré de L'Acmé avec un duo lui aussi féminin et lui aussi avec une voix de soprano et une voix de mezzo-soprano, j'ai nommé la Barcarolle tirée des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Jacques Offenbach, lui, il a écrit des opérettes en France. Donc des opérettes, c'est, on va dire, des opéras qui sont des comédies. Il était né en Allemagne, mais il a fait donc toute sa carrière en France et il est devenu, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, le maître de l'opérette française. Mais donc, la Barcarolle, comme je l'ai précisé il y a un instant, s'est tirée des Contes d'Hoffmann. Là, ce n'est pas une opérette, c'est un opéra, donc une œuvre sérieuse. C'est une œuvre d'ailleurs qui n'a pas terminé. Il est malheureusement décédé avant d'avoir pu la terminer. Et au sein donc de cette œuvre, les Contes d'Hoffmann, on retrouve cette Barcarolle avec un rythme plutôt doux, qui est avec un rythme assez doux qui fait pam 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 pam, et vous allez entendre que c'est un air forcément que vous connaissez. Donc on va enchaîner le duo des fleurs de Léo Delibes avec la Barcarolle tirée donc des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Chien et loup sur IDFM, nous venons d'entendre l'un à la suite de l'autre le duo des fleurs tiré de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes et la Barcarolle tirée des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Les deux œuvres, et c'est pour ça que je les ai mises ensemble, les deux œuvres, ce sont des duos féminins, soprano, mezzo-soprano. Tout à l'heure, je précisais que la Habanera était une œuvre, un nom rattaché à Carmen, mais que c'est une danse, une notion qui existe complètement indépendamment de Carmen et de Bizet. Eh bien, la Barcarolle, c'est exactement la même chose. Ici, c'est un genre musical, vocal ou instrumental, avec un accompagnement qui est ternaire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est pam, 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 pam pam, ça balance un petit peu, et c'est une musique qui est censée évoquer le mouvement lent d'une barque. Donc là aussi, on a un terme qui est rattaché à une œuvre, en l'occurrence ici les Contes d'Hoffmann, mais qui a une existence complètement autre aussi. Après la symphonie, l'opéra, allons vers le genre du poème symphonique. Nous restons en France et allons voir donc ce nouveau genre qu'est le poème symphonique. Ce genre, qui a eu son nom, qui est né au milieu du 19e siècle, vers 1850, eh bien c'est un genre musical qui va être inspiré par une œuvre littéraire, une œuvre picturale ou encore un paysage. Par exemple, la Moldau de Smetana, c'est un poème symphonique. La Moldau, qui est le nom du fleuve qui coule à Prague, a inspiré cette musique au compositeur tchèque Bedřich Smetana. Et là, Paul Dukas, donc compositeur français du fin 19e, début 20e siècle, a écrit L'apprenti sorcier d'après le poème du même nom de l'auteur allemand Goethe. Le poème avait été publié en 1797. Paul Dukas, lui, a créé son œuvre 100 ans plus tard, en 1897. Et je rappelle que c'est une des œuvres que l'on retrouve au sein de Fantasia, sortie en 1940, et qu'on retrouve aussi, exactement dans la même version, dans Fantasia 2000, sortie en décembre 1999. Et ce sont deux œuvres qu'on a déjà vues ensemble. On va réécouter donc des extraits de cette œuvre, L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Nous sommes donc à la toute fin du 19e siècle et ensuite nous retournerons en Allemagne à l'époque baroque. Dans l'émission Entre chiens et loups, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je suis Ishtar Mathieu Séchez, musicologue, conférencière, et aujourd'hui, on parle de tubes de la musique que je remets en contexte. Et à l'instant, on vient d'écouter des extraits de L'apprenti sorcier de Paul Dukas, donc compositeur français, et L'apprenti sorcier fait partie du genre qu'on appelle le poème symphonique. Comme promis, donc, nous retournons en Allemagne et à l'époque baroque, et on va retrouver en l'occurrence un contemporain exact de Jean-Sébastien Bach qui a ouvert le programme du jour. J'ai nommé Georg Friedrich Händel. Les deux compositeurs donc sont nés en Allemagne en 1685. Mais à la différence de Jean-Sébastien Bach, qui, comme je le précisais tout à l'heure, est resté toute sa vie dans son pays, contrairement à Telemann, qui était son contemporain, qui a voyagé beaucoup en Europe, et contrairement donc aussi à Händel, qui lui a vécu et a travaillé de longues années en Angleterre, et il est d'ailleurs même devenu sujet britannique. Et il est à tel point devenu britannique à un tel point qu'il est même enterré au sein de l'abbaye de Westminster. Georg Friedrich Händel, lui, a plusieurs œuvres qu'on peut relever comme tubes. Il y a la fameuse sarabande, qu'on dit la sarabande de Händel, que l'on entend dans le film Barry Lyndon, par exemple, donc de Kubrick. Mais il y a aussi le chœur Alléluia. Ce chœur Alléluia que vous allez immédiatement reconnaître, je n'en doute pas, est tiré d'une œuvre qui s'appelle Le Messie, le fameux Messie de Händel. Là, on aborde encore un nouveau genre qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui, et en l'occurrence, il s'agit du genre de l'oratorio. L'oratorio, c'est un genre qui est assez proche de celui de l'opéra, puisqu'il y a un orchestre et il y a des personnages et les personnages donc sont des chanteurs. Mais à la grande différence de l'opéra, c'est que pour un oratorio, il n'y a jamais de représentation scénique, donc pas de décor, pas de costume. Les chanteurs sont sur scène avec l'orchestre. Et aussi, la grande différence, c'est que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas 100% des œuvres, mais c'est la grande majorité, pour un oratorio, le sujet sera religieux. Ici, le Messie. Et au début, je mentionnais Mendelssohn qui avait fait redécouvrir la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach en 1829 lorsqu'il a dirigé cette œuvre. C'est aussi un oratorio et vous voyez bien donc la Passion selon Saint Matthieu, c'est un autre sujet religieux. Mais on a quelques exemples d'oratorios qui n'ont pas de sujet religieux. Par exemple, si on prend un compositeur de l'époque classique, donc à même époque que celle de Mozart, Joseph Haydn, lui, il a écrit un oratorio qui s'appelle Les Saisons. Donc, ce sont les quatre saisons qui sont le sujet de cette œuvre, et donc ce n'est pas un sujet religieux. Nous allons donc écouter ce fameux chœur Alléluia, tiré donc du Messie de Georg Friedrich Händel. Le fameux chœur Alléluia tiré du Messie de Händel que nous venons d'entendre sur l'antenne d'IDFM et dans l'émission Entre chiens et loups, et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Restons à l'époque baroque, donc la période à laquelle appartient Händel, à laquelle appartient Bach, mais nous allons un peu plus en arrière que la génération de Bach et Händel, puisque nous allons retrouver Jean-Baptiste Lully, qui lui était né en 1632. Si Händel est né en Allemagne et a fait sa carrière en Angleterre et est devenu sujet britannique, Lully est né en Italie, mais il a fait carrière donc en France et plus spécifiquement à la cour du roi Louis XIV, et il a travaillé notamment avec Molière. Et ensemble, ils ont créé un nouveau genre à l'époque qui s'appelle la comédie ballet. Et le plus grand exemple de ce genre, c'est le Bourgeois gentilhomme, donc qui est souvent aujourd'hui uniquement joué en pièce de théâtre, donc pièce de théâtre de Molière. La comédie ballet, ça avait comme objectif de réunir plusieurs genres, donc le théâtre, la danse et la musique. Jean-Baptiste Lully a travaillé donc notamment sur le Bourgeois gentilhomme, et pour cette œuvre, il a écrit un morceau qui s'appelle « Marche pour la cérémonie des Turcs », et c'est ce morceau que je vous propose d'écouter. Sur IDFM 98FM, première radio du Val d'Oise, vous venez d'entendre la marche pour la cérémonie des Turcs, écrite par Jean-Baptiste Lully pour la pièce de Molière, la comédie ballet de Molière, Le Bourgeois gentilhomme. Je parlais tout à l'heure de Mendelssohn, Félix Mendelssohn, qui est un compositeur du tout début du 19e siècle. Il était né en 1809 et qui est mort à moins de 40 ans. Et c'est bien dommage, ça a été une grande perte pour la musique puisque c'était un grand génie. Et c'est donc grâce à lui que le public du début du 19e siècle a redécouvert Bach et tous ses contemporains et plusieurs compositeurs de l'époque baroque qui avaient été complètement oubliés pendant la période classique, donc par exemple pendant la période pendant laquelle Mozart a composé. Félix Mendelssohn s'est inspiré pour une de ses œuvres d'une pièce de théâtre de Shakespeare, donc il a écrit de la musique de scène. La musique de scène, c'est un genre à part entière et c'est des œuvres donc qui sont écrites pour accompagner une pièce de théâtre. Par exemple, si on prend l'exemple de Georges Bizet, qui est un compositeur qu'on a écouté tout à l'heure, puisqu'on a écouté la Habanera de Carmen, si on écoute par exemple l'Arlésienne de Bizet, qui aujourd'hui jouait essentiellement en musique de concert, eh bien il faut savoir que ça a été composé par Bizet comme musique de scène pour accompagner la pièce du même nom de l'écrivain Alphonse Daudet. Mendelssohn, lui, c'est de Shakespeare dont il s'est inspiré, et notamment de la pièce Le Songe d'une nuit d'été, et il a écrit donc toute une musique de scène, une ouverture et différents passages différents. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont que deux extraits qui sont extrêmement célèbres, donc l'ouverture, mais aussi et surtout le passage qui s'appelle la marche nuptiale. Sur IDFM 98 FM, vous venez d'entendre Félix Mendelssohn et plus particulièrement sa marche nuptiale tirée de la musique de scène qu'il a écrite pour l'œuvre, pour la pièce de théâtre de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été. Forcément, donc, cette œuvre, vous la connaissez puisque elle est très souvent joué lors des mariages. Mais il y a aussi une autre œuvre qui est jouée lors des mariages, alors ça va être soit l'une, soit l'autre, donc c'est soit Mendelssohn, soit Richard Wagner que l'on entend dans les mariages, puisque Richard Wagner a aussi écrit une musique qui accompagne dans une de ses œuvres une cérémonie nuptiale. Et en l'occurrence, ici, ce n'est pas une musique instrumentale, c'est un chœur accompagné d'instruments, mais c'est un chœur qui s'appelle le chœur nuptial ou le chœur des fiançailles, et c'est un extrait tiré de son opéra Lohengrin. Richard Wagner, avant d'écouter donc le morceau, est un compositeur du 19e siècle, compositeur allemand qui a écrit 13 opéras et il avait la particularité d'écrire lui-même les livrets. C'est-à-dire que les paroles que l'on entend par les personnages, par les chanteurs, ont été écrites par lui d'un bout à l'autre. Si je dis qu'il avait la particularité de le faire, c'est que la grande majorité des compositeurs à l'époque, même beaucoup plus ancien, à l'époque baroque notamment, et aujourd'hui, la grande majorité des compositeurs font appel à des personnes qu'on appelle les librettistes pour écrire les paroles. Lui, il écrivait l'intégralité et en 1850 donc, est créé cet opéra Lohengrin dans lequel on retrouve ce chœur nuptial. Donc, pendant les mariages, maintenant, vous savez qu'il y a soit du Mendelssohn, soit du Richard Wagner. la marche nuptiale de Mendelssohn, c'est à l'instant sur IDFM le chœur des fiançailles tiré de l'opéra Lohengrin de Richard Wagner que nous venons d'entendre. Passons maintenant à Mozart, donc on remonte un petit peu le temps et nous restons dans la sphère germanique, mais nous ne sommes pas en Allemagne, nous sommes en Autriche puisque Mozart était autrichien. Et c'est un compositeur donc qu'on ne présente plus, puisqu'on le sait, c'était un compositeur de génie. Dès ses plus jeunes années, il montrait déjà un très très grand talent de claveciniste, mais aussi de composition. Ses premières œuvres, lorsqu'il les a écrites, il avait seulement 6 ans, des œuvres pour piano notamment. Il a écrit plusieurs opéras, comme Richard Wagner. Il n'écrivait pas lui-même ses livrets, hein, pour le coup, là il a travaillé avec des librettistes, et il écrivait des opéras aussi bien en allemand qu'en italien. Parmi ses opéras en allemand, il y en a un qui s'appelle La Flûte Enchantée, et cet opéra a été créé l'année de sa mort en 1791, il avait seulement 35 ans, donc comme Mendelssohn, il est mort donc très jeune. Dans cet opéra, La Flûte Enchantée, il y a un air qui est devenu extrêmement célèbre. Là, c'est un air de soprano coloratour, donc c'est une voix aiguë de femme, mais avec des prédispositions particulièrement fortes dans les notes très aiguës. C'est l'air de la Reine de la Nuit. La Reine de la Nuit est un personnage pas très sympathique dans l'opéra, puisque dans cet air, en l'occurrence, le fameux air qu'on appelle l'air de la Reine de la Nuit, elle demande à sa fille Pamina de tuer son père, Sarastro, un grand prêtre. Donc, c'est un air plutôt de colère et un air pas très sympathique, mais musicalement, c'est absolument sublime. Voici donc cet air de la Reine de la Nuit de Mozart. Vous aurez sans doute reconnu, donc, à l'antenne d'IDFM, dans l'émission Entre chien et loup, l'air de la Reine de la Nuit tiré de La Flûte Enchantée de Mozart, compositeur autrichien, né en 1756 et décédé à seulement 35 ans en 1791. Reculons dans le temps et nous allons à nouveau à la période baroque. Vous voyez, on voyage beaucoup dans ce programme. On voyage d'un pays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre, mais aussi d'un genre à l'autre. Et on va retrouver le compositeur germanique qui est méconnu, sur le fait qu'il est rattaché à une œuvre. Et en l'occurrence, j'ai nommé l'œuvre Le Canon de Pachelbel, et le compositeur, c'est Johann Pachelbel. Ce canon, devenu ô combien célèbre, c'est pour ça qu'il a parfaitement sa place dans l'émission du jour consacrée à des tubes de la musique, aurait été composé en 1700. Écoutons donc ce canon. Sur l'antenne d'IDFM, vous venez d'entendre le canon de Pachelbel, nommé ainsi puisqu'il a été composé par le compositeur méconnu malheureusement, qui s'appelait Johann Pachelbel, compositeur de l'époque baroque, qui était né en 1653, donc il se situe exactement au milieu de Jean-Baptiste Lully, qui était né en 1632, et Jean-Sébastien Bach et Georg Friedrich Händel, qui étaient nés, eux, en 1685. Revenons au XXe siècle et revenons en France pour retrouver le compositeur français Maurice Ravel. Ce compositeur est né la même année et le même mois, à quelques jours d'intervalle, de la création de l'opéra Carmen de Bizet. Et oui, Maurice Ravel est né en mars 1875, mois et année de la création de l'opéra Carmen, donc de Bizet. L'œuvre la plus célèbre de ce compositeur est probablement le fameux Boléro. Il a écrit beaucoup d'autres œuvres, bien évidemment, qui sont devenues extrêmement célèbres et appréciées, mais le Boléro est probablement son œuvre la plus connue. Une des caractéristiques de cette œuvre, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle un ostinato, qui va durer donc durant toute l'œuvre, et c'est lui qui commence l'œuvre et qui va jusqu'au bout. Cet ostinato, donc, qui est un rythme qui est répété tout du long, est fait par la caisse claire, qui est un instrument de percussion. En l'occurrence, au début, c'est piano, puisque l'œuvre, c'est un grand crescendo d'orchestre. Au début, c'est piano, et il n'y a qu'une seule caisse claire. Et au fur et à mesure que la musique s'intensifie, l'orchestre joue de plus en plus fort, eh bien, au bout d'un moment, il y a deux caisses claires pour apporter le volume sonore à cette partie de l'ostinato. Le Boléro a été créé en novembre 1928 et il faut savoir qu'il a été créé comme un ballet. Et oui, à l'origine, c'est une œuvre qui a été dansée. Aujourd'hui, on l'oublie complètement parce que c'est une œuvre qui est, si ce n'est à 100%, quasiment à 100%, jouée en œuvre de concert, c'est-à-dire sans danseur. Mais oui, cette œuvre a été pensée comme un ballet et créée donc comme telle. Il y a quasiment 100 ans, puisque c'était en 1928. On va écouter donc un extrait de ce Boléro. C'est Maurice Ravel et plus particulièrement son Boléro que l'on vient d'entendre à l'antenne d'IDFM dans l'émission Entre Chien et Loup et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Rimsky-Korsakov, maintenant Nikolaï Rimsky-Korsakov, compositeur russe du 19e siècle, a écrit plusieurs opéras et parmi eux il y en a un qui s'appelle Le Conte du Tsar Saltan. Et comme il y arrive souvent dans les opéras, eh bien il y a dans cet opéra un passage au sein de l'action qui est uniquement instrumental. Dans un opéra, les parties instrumentales en général c'est l'ouverture, qu'on retrouve au tout début de l'opéra, ou aussi les passages qu'on appelle les préludes, c'est-à-dire une partie uniquement orchestrale qui va ouvrir le premier acte, une partie qui va ouvrir le deuxième acte, une partie orchestrale qui va ouvrir le troisième acte. Mais parfois, c'est au sein même d'un acte, au sein même de l'action, que l'on retrouve des passages uniquement instrumentaux. On peut citer, par exemple, la méditation de Thaïs dans l'opéra Thaïs de Jules Massenet, compositeur français. Et puis aussi, on peut penser à la fameuse danse des heures, devenue ô combien célèbre, notamment grâce au dessin animé sorti en 1940, Fantasia, que l'on a vu ensemble. C'est le passage où il y a les hippopotames et les éléphants qui dansent en tutu. Et il y a aussi, donc chez Nikolaï Rimsky-Korsakov, dans son opéra Le Conte du Tsar Saltan, le passage qui s'appelle Le Vol du Bourdon. C'est un passage extrêmement virtuose, notamment pour la flûte. Pour résumer juste en quelques mots ce passage, c'est un personnage en fait qui se transforme en bourdon pour pouvoir rejoindre quelqu'un qui est en mer. Et donc, il a pris la mer, il est au plein milieu de l'océan, et la personne en question est sur la terre ferme. Et donc, pour pouvoir rejoindre le bateau, la solution qu'il trouve, c'est de se transformer en bourdon. Et donc, cette musique représente donc le vol de ce bourdon pour rejoindre le bateau. C'est le vol du bourdon tiré de l'opéra Le Comte du Tsar Saltan de Nikolaï Rimsky-Korsakov que nous venons d'entendre à l'antenne dans l'émission Entre chiens et loups. Allons maintenant en Italie, mais on reste dans le domaine de l'opéra et on reste dans une partie uniquement instrumentale d'un opéra, mais cette fois-ci c'est tout à fait normal puisque c'est dans l'ouverture et en l'occurrence il s'agit d'un extrait de l'ouverture de l'opéra Guillaume Tell de Gioachino Rossini, compositeur de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et c'est un compositeur qui, en l'occurrence, a arrêté de composer à 40 ans en 1830, Guillaume Tell étant son dernier opéra. C'est un opéra qui a été créé en 1829. Rossini, donc, à 40 ans, abandonne la composition pour se consacrer à son autre passion, la cuisine. Et dans cette œuvre, l'ouverture de cette œuvre Guillaume Tell, qui est un opéra, et après un passage plutôt lent dans lequel on retrouve des instruments qui font des différents solos, c'est des passages absolument magnifiques, on retrouve un solo de violoncelle ou encore un solo de corps anglais, eh bien il y a aussi tout le galop final lancé par les trompettes. Sur IDFM, dans l'émission Entre chiens et loups, nous venons d'entendre un extrait de l'ouverture de l'opéra Guillaume Tell du compositeur italien Gioachino Rossini. Tout à l'heure, je mentionnais Mozart qui a écrit des œuvres, des opéras en italien. Eh bien, il a écrit parmi ses opéras en italien une œuvre qui s'appelle Les Noces de Figaro. Rossini, lui, donc tous les opéras qu'il a écrits, il les a écrits en italien, d'un livret en italien, il a écrit Le Barbier de Séville. Et c'est assez amusant, puisqu'on peut faire ça, on utilise ces termes-là pour le cinéma aujourd'hui, mais là on peut l'utiliser aussi pour la musique et pour cet exemple précis, puisque Le Barbier de Séville de Rossini a été écrit après Les Noces de Figaro de Mozart, mais Le Barbier de Séville, c'est Figaro, et ses noces ont lieu après l'histoire qui se passe dans Le Barbier de Séville. Donc, c'est amusant, je trouve assez amusant, et je voulais vous le partager, de noter que Rossini, en quelque sorte, a écrit un préquel, en écrivant Le Barbier de Séville, à l'opéra Les Noces de Figaro de Mozart. Partons maintenant en République tchèque et on retrouve le genre du poème symphonique après L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Smetana, Bedřich Smetana, donc qui était un contemporain de Antonín Dvořák, par exemple, qui a écrit sa fameuse 9e symphonie qui s'appelle la Symphonie du Nouveau Monde, a écrit donc un poème symphonique qui s'appelle la Moldau. La Moldau, donc, c'est le fleuve qui coule à Prague et c'est ce fleuve donc qui a inspiré cette musique à Smetana. Thank you. Vous venez d'entendre dans l'émission Entre chien et loup un extrait du poème symphonique de Bedřich Smetana, compositeur tchèque, La Moldau. Retournons maintenant en Autriche et on va retrouver la famille Strauss. Tout à l'heure, on a évoqué donc Mozart qui était autrichien à l'époque donc classique. Et au 19e siècle, nous avons la famille Strauss, la famille de Johann Strauss, père et fils. Mais Johann Strauss, fils, est clairement le plus talentueux de la famille et c'est lui qui a écrit le plus d'œuvres. Il a écrit énormément de polkas, qui sont des danses rapides à deux temps, mais aussi il est littéralement devenu le roi de la valse. Parmi les valses viennoises extrêmement célèbres de Johann Strauss, nous avons la valse de l'empereur ou encore le beau Danube bleu. Le beau Danube bleu, qui est d'ailleurs une œuvre que l'on retrouve dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Tout à l'heure, je mentionnais le fait que nous retrouvions dans le film Barry Lyndon la fameuse sarabande de Handel. Eh bien, on retrouve aussi du Johann Strauss, après avoir entendu dans 2001, l'Odyssée de l'espace, du Richard Strauss, qui n'avait absolument rien à voir avec la famille de Johann Strauss, puisqu'il était allemand, et puis Strauss est finalement un nom peut-être assez commun dans la sphère germanique. Johann Strauss, donc, a écrit des dizaines et des dizaines de valses, et je voulais vous partager aujourd'hui la fameuse valse du beau Danube bleu, et c'est cette valse que l'on entend aux côtés de la marche de Radetzky, qu'on écoutera juste après, dans le concert du Nouvel An à Vienne tous les ans. Et c'est même de cette œuvre qui, au début, après quelques instants, est interrompue par les applaudissements des spectateurs. Et c'est à ce moment-là que l'orchestre et le chef d'orchestre présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année au public. Cette grande élégance de la valse viennoise, donc, et notamment de cette valse viennoise écrite par Johann Strauss, le beau Danube bleu. Son père était aussi compositeur, mais malheureusement, il n'est rattaché qu'à une seule œuvre. C'est un petit peu comme tout à l'heure, Pachelbel, qui est malheureusement seulement rattaché à son canon, qui s'appelle d'ailleurs, donc qu'on intitule le canon de Pachelbel. Johann Strauss, père, est lui rattaché à une fameuse marche qui s'appelle la marche de Radetzky. Et Radetzky étant une personne qui a réellement existé, et c'était à son intention, c'était un militaire et c'était à son attention, que Johann Strauss, père, a écrit cette marche. Et cette marche, c'est celle qui conclut tous les ans le concert du Nouvel An à Vienne, et c'est pendant cette marche que le public applaudit au rythme de la musique. Johann Strauss, père, avec sa fameuse marche de Radetzky que nous venons d'entendre à l'antenne d'IDFM. Juste avant, donc, nous avions entendu le Beau Danube Bleu, valse de son fils, Johann Strauss, fils. Après Johann Strauss, père et fils, Richard Strauss, qui donc n'a rien à voir avec les deux premiers. Il était allemand alors que les deux premiers étaient autrichiens. Strauss a écrit beaucoup de poèmes symphoniques, donc comme « L'amour d'Ao » de Smetana, ou encore « L'apprenti sorcier » de Paul Dukas. Il est devenu un des maîtres de ce genre-là, et parmi ses poèmes symphoniques les plus célèbres, il y a « Ainsi parlait Zarathoustra », qui est l'œuvre que l'on entend au tout début du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, sachant qu'ensuite, c'est donc « Le Beau Danube Bleu » de Johann Strauss que l'on entend. Ainsi parlait Zarathoustra est un poème symphonique qui a été inspiré par l'œuvre du même nom du philosophe allemand Nietzsche à Richard Strauss, et on écoute le début de cette œuvre, début qui est devenu donc extrêmement célèbre par ce grand crescendo qui vient absolument de rien, ce crescendo qui est initié par la trompette et dont le sommet est fait par la timbale. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, de cette première émission consacrée aux tubes de la musique classique. J'espère que vous avez apprécié le programme et que vous avez apprécié toutes les informations que je vous ai fournies autour de ces musiques extrêmement célèbres. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve le 28 mars à 18h, toujours dans l'émission Entre Chien et Loup, et ce sera la suite du numéro d'aujourd'hui puisque nous parlerons encore tubes de la musique. Vous pouvez écouter cette émission et les autres émissions de la grille sur www.idfm98.fr, nous écouter partout dans le monde avec l'application IDFM Radio, et enfin vous pouvez nous suivre et nous envoyer des messages via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.
De France.
Écoutez IDFM
sur 98 FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.